Donc, si vous voulez tourner avec moi dans Colossiens, et on va conclure le chapitre 3 aujourd'hui. Mais pour se remettre dans le contexte, on va simplement le relire, d'accord? À partir du verset 12. Même si ce serait bien avant, là, mais... On va faire à partir du verset 8. « Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni chite, ni esclave ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et, si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, et non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Et puis pour conclure aussi la suite, Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Donc, on va arrêter cette portion ici. La dernière fois, quand on a commencé finalement à voir comment revêtir l'homme nouveau et comment vivre, j'aimerais juste que, de manière très réaliste ici, est-ce que vous réalisez que tout ce qui est recommandé ici nous rend vulnérables? Ce n'est pas évident. Par exemple, d'avoir finalement de la miséricorde, on se rappelle ce que ça veut dire. La miséricorde, c'est d'avoir ce sentiment comme on a face à des petits-enfants. Tu sais, si on voit quelqu'un affligé, quelqu'un qui a des problèmes, n'importe quoi, de se laisser toucher pour agir avec miséricorde. Parce que c'est comme ça que Dieu agit à notre égard. Donc, tout ce qui est recommandé ici, ça se fait pas par la loi, mais par la foi. Et c'est là que souvent, on peut se tromper en tant que croyant. La sanctification, on ne la fait pas par la loi. En d'autres mots, on ne fait pas, si on fait assez ces choses, on va mériter que Dieu nous bénisse. Pas du tout. On le fait par la foi. OK? On est prêt à obéir au Seigneur, même si on n'a pas l'impression, selon la manière qu'on a été élevé dans ce monde, que ça va marcher. Est-ce que vous vous rappelez l'exemple que je vous ai donné, que le Seigneur ne veut pas qu'on ait juste de l'information sur lui, mais qu'on doit avoir la foi en lui pour le connaître? Si on entend ce que la parole dit, on va arriver toujours à des temps où on peut mêler la foi à ce qu'on a entendu. En d'autres mots, d'agir selon ce qu'on a entendu. Puis Paul rappelle aux Corinthiens, dans une autre lettre, là, que ceux qui ont sorti d'Égypte, qui ont été délivrés par le Seigneur, ont tous péri dans le désert parce que, ayant entendu le même message que nous, ils ont été l'objet de le même message. Sauf que Paul nous rappelle, eux, dans le désert, ils n'ont pas mêlé la foi à ce qu'ils ont entendu. Ils sont restés dans le mode de vie hérité d'avant la délivrance. Ils étaient esclaves en Égypte. Ils avaient été humiliés, brisés. Ça a dû être terrible. Ils se faisaient enlever leurs enfants, leurs filles, entre autres, pour servir de harem pour les maîtres, leurs jeunes hommes, finalement, pour des travaux terribles. C'était une horreur. Puis même souvent, il y avait des lois, vous tuez les petits gars quand ils vont naître. En passant, les sages-femmes qui étaient sages ont refusé d'obéir. Puis le roi les a appelés, Pharaon les a appelés un moment donné en disant, « Qu'est-ce qui arrive? » »« Ah non, c'est ça. » Ils ne sont pas comme les faiblettes égyptiennes. Vos femmes, c'est des petites faiblettes. Tandis que nous autres, quand on arrive, la femme a déjà accouché son bébé. Ça, c'est des femmes viriles, pas des fifs comme les vôtres. Donc, et puis là, finalement, Dieu bénit ces femmes-là. Il le faisait au risque de leur vie en passant. Parce qu'à l'époque, là, si tu allais contre les lois du gouvernement, ce n'était pas juste une petite amende que tu avais. Tu faisais trancher à teinte. Donc, ils vivaient par la foi. Ils ne l'ont pas fait pour mériter la bénédiction. Ils l'ont fait parce qu'ils ont su que c'était la volonté de Dieu de ne pas tuer les enfants. Maintenant, le Seigneur, quand il va faire entrer la prochaine génération, la première n'a pas entré dans la terre promise. Parce que la première, c'est un type, c'est une image. C'est l'image de notre chair. Quand il a dit ici de se dépouiller du vieil homme. Bon, mais le vieil homme, c'est celui qui est sorti finalement d'Égypte, mais qui a été élevé en Égypte et qui est en réaction au mal, qui est dans un esprit de vengeance. Et quand il parle de liberté, pour lui, l'esclave affranchi, liberté égale « Si je ne suis plus sous Pharaon, je suis donc Pharaon. » Parce qu'il n'a rien connu d'autre dans sa vie que dominé et dominant. Alors, s'il n'est pas un dominé, il est devenu un dominant. Vous vous rappelez la révolte de Corée, d'Atam et Abiram? Quand ils ont dit à Moïse, Pharaon, « Pour qui vous prenez? On est tous saints. » Ben oui, c'est vrai, on est tous saints, pas de problème. On a tous été mis à part pour Dieu. Mais pour eux autres, tous saints veut dire tous égaux et on a le droit au même pouvoir. Ils étaient des esclaves, mais pas affranchis dans leur teinte. Affranchis du maître, mais toujours en train de fuir le maître. Et ça, c'est notre chair. On est né dans un monde séparé de Dieu. Dieu, lui, nous a toujours vus, il nous aime. Mais on a été élevés, puis on est dans un monde qui s'est séparé de Dieu. Alors, on a toutes sortes de modes de vie qui fait que, je ne sais pas, vous avez déjà entendu des gens dire, « Hey, moi, là, c'est fini, il n'y aura plus jamais personne qui va me niaiser. » Vous avez déjà entendu cela? Ou bien, tu sais, des gens qui sont en peine d'amour, « Moi, c'est fini, il n'y a plus une femme qui va me faire broyer, Zette. » Ou un gars. Et puis, c'est des mécanismes de défense. Et puis, en passant, on ne peut pas dire aux gens, « Non, non, il n'y a rien arrivé. » Non, non, ils sont capables de donner les faits, là. Tout ça a développé en nous un mode de vie où on a été obligé d'être soi-même Dieu de notre vie. On est obligé soi-même de se sauver. Puis c'est pour ça qu'il y a un dicton qui dit « On n'est jamais mieux servi que… » Et ce n'est pas vrai. On est mieux servi par le Seigneur. Mais ça, tant qu'on ne l'aura pas cru, c'est une chose d'en entendre parler. Hein? On peut venir à l'église à tous les dimanches, puis lire nos bibles à tous les jours, et puis d'entendre que le Seigneur prend soin de nous, comme les cantiques qu'on a chantés tout à l'heure. Mais rappelez-vous ce que je vous ai donné comme contexte pour voir qu'est-ce que Dieu a dit à Israël de faire lorsqu'ils vont entrer dans le pays. Il dit, quand tu vas entrer dans le pays que je vais te donner, tout le monde vivait de l'agriculture à l'époque, même les rois. Alors finalement, tous ces gens-là avaient tout un morceau de terre, ils cultivaient leur terre, ils vivaient de ce qu'ils produisaient. Ce n'était pas compliqué. Il y avait du bétail, il y avait des champs, il y avait des vignes. Et le Seigneur dit, tu vas semer, récolter, tu vas tailler ta vigne et tu vas travailler ça pendant 6 ans. La 7e année, tu ne fais rien. Ça va être un Shabbat en l'honneur de l'Éternel. Remarquez bien le titre, c'est « En l'honneur ». Donc Dieu dit, « Je veux que vous voyiez qui je suis pour vous. » Alors je vous demande, la 7e année, pas de travail. Un peu plus loin dans le texte, Lévitique 25, d'après vous, quelle est la question que l'Israélite, bien concret, terre à terre, va se poser comme question? Qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? Le Seigneur dit, c'est sûr que tu vas te poser cette question-là, qui est tout à fait logique. Pas vrai? C'est très logique. Le Seigneur dit, non, regarde, moi, l'Éternel, je veux que tu obéisses à mes commandements. Parce que si tu obéis, tu vas pouvoir vivre dans ton pays en toute sécurité. Comment? Parce que tu vas voir, je m'occupe de toi. Oui, mais avant qu'une guerre arrive, tu vas faire quelque chose, je vais te donner une année sabbatique à chaque 7 ans. La 7e année, tu restes chez vous, tu profites finalement de vivre avec ta famille, tes amis, tu ne s'en vas pas travailler, tu ne fais pas travailler tes serviteurs non plus, tu ne fais pas marcher ton bœuf, laisse-les tranquilles, relaxe tout le monde. Et moi, l'Éternel, je vais bénir la récolte de la 6e année, elle va te produire 3 ans de récolte d'un coup. 3 ans. Maintenant, si vous n'avez pas une alliance avec Dieu qui promet de le faire, je ne nous propose pas de le faire. Pas vrai, Rosin, si on ferait ça, là, je pense qu'on aurait un petit problème économique. Pourquoi? C'est vrai qu'il y a une sagesse de faire reposer le sol, hein, quand on met des. Mais on fait, tu sais, dans le sens, on change de terrain. Mais le Seigneur, c'est pas la mécanique qui dit qu'il va bénir. C'est pas parce qu'il nous donne un secret de la nature. C'est parce que lui-même dit, regarde, je vais montrer, je vais pour que tu puisses me connaître. Parce que regarde, tu peux avoir plein d'informations sur moi, mais de l'information, ça ne vaut rien tant que tu ne m'auras pas connu en mêlant la foi à ce que tu as entendu. Alors, ceux qui l'ont fait, la majorité en Israël ne l'ont jamais fait. Parce que pour eux autres, c'était comme suicidaire cette affaire-là. Et c'est pour ça que c'est une des raisons, des centaines d'années plus tard, que Dieu les a déportés à Babylone. Puisque tu n'as jamais fait reposer la terre, elle va avoir 70 ans pour se reposer. Maintenant, le seul moyen de connaître Dieu, c'est par la sanctification. Vous vous rappelez dans l'Épître aux Hébreux, personne ne connaît le Seigneur si ce n'est par la sanctification. Maintenant, la sanctification, c'est d'obéir par confiance à ce que Dieu nous demande, et c'est une manière, c'est comme ça qu'on attend le Seigneur. Et c'est là qu'on va voir comment Dieu va agir en notre faveur. Je sais que ça a l'air d'un fois passif, mais c'est une passivité active, volontaire. C'est un choix qu'on fait. Par exemple, si quelqu'un vous fait du tort, c'est quoi le réflexe qu'on a? Vengeance. On va se faire justice. Et puis, ça vient tout naturellement, pas vrai? Pas besoin de te forcer pour être en colère, pour te venger. Mais vous savez très bien, si vous avez vécu assez longtemps, que des injustices, des maladresses à votre égard, il va en avoir régulièrement. Pas vrai? Et c'est béni ça parce que vous n'avez même pas besoin de prier pour en avoir. Ils sont fournis. Mais ce qu'il y a de béni dans l'épreuve, parce que, n'oubliez pas, tant qu'on n'a pas compris les Écritures, il y a des choses qui nous paraissent bizarres. Jacques va dire, voyez comme un sujet de joie complet, total. Les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. La plupart d'entre nous, on est venus au Seigneur pour plus avoir d'épreuves. Le Seigneur dit, non, tu vas en avoir des nouvelles. Mais l'épreuve pour nous, dorénavant, c'est la même chose qu'il dit dans Romains chapitre 5, non seulement on a la paix avec Dieu sur la base de sa grâce et demeurez ferme dans cette grâce, vous ne le méritez pas. Vous l'avez reçu parce que Dieu le donne. Et parce que Dieu donne et que vous l'avez reçu, vous êtes sauvés. Dieu est redevenu votre Dieu dans ce monde qui veut vivre sans Dieu. Mais maintenant, Il faut se débarrasser du vieil homme qui est l'esclave d'Égypte, qui n'a rien connu d'autre que d'être écrasé, humilié. Maintenant qu'il est libéré, son réflexe, c'est « Bon, mais si je ne suis plus un esclave, je suis un maître. » Le Seigneur dit « Non, non, tu n'as pas besoin d'être ni maître ni esclave. Tu vas être un homme libre. » Et juste dans la liberté, tant qu'on n'a pas goûté, tant qu'on n'a pas cultivé dans notre vie le résultat de connaître le Seigneur qui produit la liberté, vous êtes incapable de servir. Vous ne serez pas capable de servir. Parce que vous allez toujours, si vous avez été humilié dans votre vie, vous allez avoir l'impression qu'on profite de vous autres, qu'on vous niaise. Ou pire, à un moment donné, vous allez envoyer la facture aux gens quand vous allez les aider. Combien de fois on entend, là, je ne sais pas moi, être parent, c'est spécial. Pas vrai? Tu élèves tes enfants, tu réorganises ta vie en fonction de tes enfants, c'est des petits trésors. C'est le fun que si un les fasse, des belles petites faces, bien gentilles. Et puis, il y a sûrement une hormone qui est déclenchée dans notre tête pour pas qu'on les tue. Tu comprends? Et puis, on les aime, on les trouve cute, et puis ils sont vraiment sympathiques. Et puis là, en passant, on met beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent à élever nos enfants. Pas vrai? Et un jour, qu'est-ce qu'ils vous disent? Bye-bye! Ils s'en vont avec quelqu'un d'autre. Tout ton investissement s'en va. Ben, c'est comme ça que Dieu nous aime. Dieu, finalement, il est en train de nous élever à ce qu'on puisse l'aimer librement. Au début, c'est sûr qu'on peut aimer Dieu par motif d'intérêt. La plupart d'entre nous, on est venu à lui pour recevoir. C'est normal, ça commence comme ça, parce qu'être une créature, ça commence par réaliser que, à moins que tu reçoives, tu ne l'as pas normalement. Si tu as la vie et l'existence aujourd'hui, c'est que cette vie que tu as, t'a été donnée par deux autres personnes. On a besoin d'air, surtout avec nos masques, là, on est plus conscient de ça, là. On a besoin de l'air qui est externe pour respirer, pour vivre. On a besoin de la nourriture, on a besoin de l'eau. On a besoin de toutes les choses externes. Maintenant, le Seigneur, ce qu'il veut nous apprendre, c'est que la liberté vient seulement du résultat de connaître la source sûre. Tant que vous êtes insécurisé, vous allez vivre sur la défensive. La générosité ne coulera pas facilement. Le don de soi ne coulera pas facilement. Vous allez toujours voir, « Attends, il me niaise-tu, il profite-tu de moi? » Le Seigneur dit, « Non, regarde. » C'est pour ça qu'on peut prier le Seigneur en disant, « Regarde, comble ma coupe pour qu'elle déborde et que mon comportement soit le résultat du débordement de l'amour que tu mets dans ma vie. » Maintenant, le seul moyen de le savoir et de connaître ce Dieu-là pour juste être informé, c'est d'obéir par la foi. Obéir par la foi, ici dans le contexte, il dit, puis même ce qui englobe tout ça, verset 14, « Mais par-dessus toutes ces choses qu'il vient de nommer, là, revêtez-vous de la charité. » La motivation de tout ce qu'on fait devrait découler de l'amour, d'abord que Dieu nous manifeste. Il faut le recevoir. Il faut vivre en fonction de s'attendre à l'amour que Dieu va nous donner, dans toutes sortes de petits détails, pour après redevenir à son image, à sa ressemblance. Comment on pardonne? Bien, il l'a dit juste avant, pardonnez-vous comme Christ vous a pardonné, comme lui. Comment le Seigneur établit une relation avec nous, sinon en nous disant, quand je te mets sous conviction que tu as mal agi, donne-moi pas des raisons. Avoue tes torts. Et il dit que Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner. Il n'a pas dit qu'il est bon et compatissant. Il est juste et fidèle. C'est une alliance qu'il fait avec nous. C'est comme un contrat, c'est comme un mariage. Alors finalement, tous ceux qui vont commencer à connaître le Seigneur dans leur vraie vie, parce que vous regardez, on a lu ici, cette vie ne va pas se vivre dans un monastère. C'est sûr qu'on peut aller faire un petit tour dans un monastère une fois de temps en temps, si on veut, pour quelques jours. Oui, on peut aller dans un camp chrétien. En passant, il y en a un bientôt que je vais faire au camp des Bouleaux, là, si jamais ça vous intéresse, au mois de septembre. Bref, mais on ne s'en va pas vivre là. Même quand on s'en va, par exemple, en mission chez vous, hein, ben, on dit aux gens, quand les jours se finissent, n'oubliez pas, maintenant, vous retournez dans votre vraie vie. Parce que pour vous autres, vous n'êtes pas dans votre vraie vie, vous allez retourner bientôt dans votre vraie vie. Mais quand nous, on s'en va en Haïti, On s'en va finalement dans une période fermée de vie. Mais ce n'est pas toute notre vie, ça. C'est le résultat d'avoir une vie ici qui nous permet d'être capable d'aller donner là-bas. Autant financièrement, du temps, n'importe quoi. Donc, mais quand les gens ont fini leurs 2 semaines, le mois, peu importe, souvent on a un rap le soir, un temps question-réponse, puis on dit, n'oubliez pas, maintenant, préparez-vous, vous retournez dans votre vraie vie. Parce que là, c'est tous les jours, pareil. Maintenant, la vraie vie se passe où? Bien, Paul y décrit finalement où ça se passe. Femme, où est ta vraie vie? Si tu es marié, bien, tu es avec ton mari. Et si vous remarquez, c'est ce que la parole de Dieu enseigne à la femme ici. Soyez soumise à vos maris. Peut-être le mot « soumis » est mal compris. Et souvent, il est chargé d'une mauvaise compréhension. En d'autres mots, le rôle du mari, pour qu'il puisse réussir son rôle, dépend énormément de sa femme. Dans une équipe, tu sais, par exemple, moi, je suis président de la faculté de théologie. OK? Je suis président. Mais honnêtement, moi, je représente toute l'équipe. Puis je vais être honnête avec vous autres, c'est moi qui fais le moins de travail dans toute l'équipe. Et toutes les grandes idées, elles ne viennent pas de moi. Mais à toutes les fois qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'équipe, du côté administratif ou du côté, finalement, doyen de l'académie, s'il y a un changement qui est proposé, eh bien, ils en discutent ensemble. Et après ça, ils me disent, regarde, on pense faire telle affaire. Qu'est-ce que tu en penses? Tu me donnes-tu le droit? Parce que légalement, bien, c'est moi qui représente l'équipe. Donc, si vous remarquez, un chef dans le Seigneur, ce n'est pas un dominant. C'est un coach. C'est quelqu'un qui voit juste si on est en train d'atteindre le but. Et en même temps, tu veux équiper ton équipe pour te donner les meilleures suggestions possibles afin qu'on ait discerné le mieux qu'on peut la volonté de Dieu pour le projet. Et quand on a discerné cette volonté de Dieu et qu'on y marche, eh bien, savez-vous quoi? Non seulement on va voir des choses incroyables arriver parce que Dieu lui-même va pourvoir où ça ne peut pas arriver, et tout le monde va être content de ce que maintenant on a connu davantage le Seigneur. On n'a pas juste été mieux informé sur lui, de l'information qu'on a reçue sur lui, on l'a connu. Combien de fois en Haïti, on a connu le Seigneur? Hein? Parce qu'on est sur du terrain concret et souvent, on est dans un terrain où est-ce que, pour nous en tout cas ici, eh bien, on se sent comme, wow, on n'est pas chez nous. Là. On ne connaît pas toutes les règles du jeu et tout ça, hein? C'est pour ça qu'il faut avoir des gens, comme la première fois qu'on a commencé leur projet avec Normand, j'avais demandé finalement que Estave vienne avec nous. Estave, tu te rappelles? Il a été finalement, c'était notre interprète, mais pas notre interprète du créole. C'était notre interprète, c'est-tu correct ce qu'on fait ou c'est pas correct? Puis même des fois, il disait à Normand, oh, Normand, tu as fait un gros péché là, tu te rappelles? Parce que finalement, on s'en allait dans une autre culture et il ne fallait pas venir simplement avec le centre de référence qu'on a ici, qu'on s'en va là-bas. De la même manière qu'en parlant avec le doc, tu me dis, gars, ce n'est pas le temps de venir en novembre parce que vous allez être trop facilement associé à une contamination. On est des étrangers qui arrivent, si ça arrive. Et puis maintenant que le projet est rendu vraiment solide, c'est pour ça que nous maintenant, c'est par leur proposition, qu'on va voir comment on va continuer à développer le projet en Haïti. De la même manière, c'est par Pasteur Kudjo et Pasteur Joe au Ghana qu'on va continuer à développer, voir qu'est-ce que Dieu nous permet de faire en Afrique. Vous comprenez finalement le but de la soumission? C'est pour ça qu'à la fin, quand il parle de l'homme, la femme, tout ça, de la soumission, il finit souvent par « soumettez-vous les uns aux autres ». C'est toujours discerné finalement dans la liberté. On n'a pas besoin de devenir un chef dans le but de dire « j'ai réussi, je suis en haut de la pyramide ». Non. Dans l'œuvre de Dieu, si tu as réussi, c'est que tu deviens un vrai leader qui inspire à ce que les gens te donnent leur soumission, qu'ils donnent leur soumission au projet. Et c'est comme ça, finalement, que l'autorité de quelqu'un dans le royaume de Dieu est bâtie. Le monde, au contraire, c'est par la menace. C'est par l'achat, c'est par les cadeaux, c'est par toutes sortes de manipulations que souvent les gens essaient d'être des chefs. Mais dans le royaume de Dieu, c'est une autre règle de vie. car c'est Dieu qui appelle. On ne s'appelle pas. Paul n'a pas rempli finalement une demande, je ne sais pas moi, une offre d'emploi, tu sais, qui était affichée à Jérusalem. Les apôtres disaient, « Bon, on a besoin d'autres apôtres. Y a-t-il quelqu'un qui veut appliquer pour la job? » Non, non. Il n'a pas rempli une formule d'application. Le Seigneur l'a appelé. Et le Seigneur lui a montré tout ce qu'il devra souffrir à cause de lui. Les apôtres, c'était tout pareil. « Pierre, laisse-moi te montrer comment tu vas me glorifier. » Il a montré comment il était pour mourir, martyr à cause de Christ. L'appel de Dieu. En tant que croyant, maintenant, on doit se débarrasser d'une mentalité où ma vie m'appartient. Et dorénavant, seul par le Saint-Esprit, c'est seulement ceux qui sont régénérés et remplis du Saint-Esprit qui sont capables de vivre sous la seigneurie de Christ maintenant. Quand tu entends des gens qui se disent chrétiens dire « Non, non, c'est légal à cette heure. » Bien, ça dépend, c'est légal de qui? Si c'est légal de tuer vos enfants, la société s'est donné le droit de tuer ses enfants. Maintenant, est-ce que vous, en tant que croyant, Jésus vous a dit « Oui, vous pouvez tuer vos enfants? » Non, tu ne tueras point. Et rappelez-vous ce que Paul finit ici. « Femme, faites que votre mari soit capable d'atteindre son but. » Parce que le couple est une image. On n'est pas la réalité, on est l'image encore. De quelle image le couple représente-t-il dans l'œuvre de Dieu, d'après vous, selon les Écritures? Christ et l'Église. C'est Paul qui le dit aux Éphésiens. Un couple représente Christ et l'Église. Donc, on doit vivre aussi dans ces rôles-là. On n'est pas en train de dire, non, 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 dans notre société, c'est plus à la mode, ça. Bien, peu m'importe la mode. Moi, ce n'est pas une mode que je suis, c'est le Seigneur Jésus-Christ que je suis. Parce que, qu'est-ce qu'il dit ici? N'oubliez pas, vous servez Christ. Car celui qui agit injustement, selon quelle loi on agit injustement? Selon la loi de Christ. Celui qui agit injustement recevra selon son injustice et il n'y a point d'exception de personne. Faites attention de tomber dans une forme de grâce où vous pensez qu'il n'y a aucune conséquence au mal que vous faites. Il va y avoir des conséquences. De la même manière qu'il y a des conséquences positives pour ceux qui auront agi par la foi dans l'obéissance à la parole de Dieu. Il va y avoir une différence. Donc, c'est pour ça que, mesdames, vous devez retrouver selon le modèle du Seigneur, c'est quoi être soumise. Selon le Seigneur. En d'autres mots, si votre mari vous demande de participer avec lui à de la contrebande de dope, puis il vous dit « Hey, t'es chrétienne, t'es soit être soumise. » Non, non, il y a des gens qui ont déjà eu ce défi-là. Là. Ils ne comprennent pas. La soumission, ce n'est pas de l'obéissance aveugle. Ça marche? C'est d'aider la personne qui reçoit un mandat de la part de Dieu dans l'ordre de Dieu. Par exemple, il nous est demandé à nous, citoyens, d'être soumis à nos autorités civiles. Et tant que ça ne sera pas à l'encontre de la volonté claire de Dieu, on doit être soumis. Par exemple, nos impôts, il faut les payer. Eh oui! Puis n'oubliez pas, à l'époque, les impôts qu'ils payaient, c'était des impôts aux conquérants. Ils faisaient vivre ceux qu'ils avaient vaincus. Ça, c'est plate. Nous autres, on fait vivre des fois, on ne sait pas qui, là, mais en tout cas, c'est une autre histoire. Mais eux, c'était carrément les Romains avaient conquis le pays, et Paul dit, n'oubliez pas, payez vos impôts. Et ça, c'était donc à César. Écoute, c'est frustrant un peu. Mais le seul moyen de connaître le Seigneur, ce n'est pas de trouver une mécanique qui marche tout seul. C'est ça qu'on a... On a été éduqués comme ça dans le monde. On est éduqué pour essayer de trouver des lois qui marchent tout seul. Vous comprenez? Pour connaître Dieu, il faut découvrir selon son alliance avec nous. N'oubliez pas, la nouvelle alliance en Jésus-Christ est une alliance très précise, claire, nette et précise. Elle est différente de celle de l'Ancien Testament. C'est pour ça que des chrétiens qui retournent au régime alimentaire de l'Ancien Testament, ou se réunir le samedi en pensant que c'est la journée la plus sainte de la semaine, ou faire toutes les œuvres de Dieu sous l'Ancien Testament, la plupart de ces chrétiens-là, en passant, ils font ça comme dans un buffet. Ils prennent juste les règlements qui font leur affaire. Ça veut dire que même la manière que tu coupes ta barbe, ton linge, il faut qu'il y ait juste un tissu, un fil, une sorte de fil, il n'y a pas de poly, Esther. Esther, t'es une reine. Et bref, les gens ne comprennent pas que la loi était là pour définir clairement ce que Dieu avait fait par les alliances. Et toutes ces alliances-là étaient tout le temps de Adam dans le jardin, il a échoué. Noé a aussi, Dieu a renouvelé une alliance avec Noé. Et l'alliance qu'il a renouvelée, pas qu'il a faite à nouveau, qu'il a renouvelée, c'est celle de la création. Il va préserver la création. La création que Dieu a créée, elle va être pour toujours. En passant à la nouvelle terre de nouveaux cieux, ça va être la recréation de la création. Parce que là, on est en train de la détruire à cause de notre cupidité puis de notre folie, et ainsi de suite. Mais Noé a échoué. Ils ont tous échoué. Quand il a renouvelé après ça sa promesse par une alliance avec Abraham, bien Abraham, il a été fidèle jusqu'à un certain point, mais il a échoué dans d'autres domaines. Il a menti, fait passer sa femme pour sa sœur, ainsi de suite. Donc, toutes ces, on pourrait dire, c'est toutes des Adam. T'sais? Israël, après ça, a été mis à part pour être un autre Adam, le peuple de Dieu. Ils ont tous échoué. Et ce qui est béni, vraiment la bénédiction la plus belle de toutes, là, c'est quand Jésus arrive, il est la postérité. Tout est lui. Il est l'Israël de Dieu, il est le temple, il est l'eau, il est le pain, il est tout. Toutes les images données, c'est lui. Okay? Il forme 12 hommes. Et ça, c'est vraiment trippant, ça, c'est vraiment beau. Pour conclure l'échec total d'Adam en dehors de lui, même les 12 après 3 ans et demi de formation de disciples. Écoute, c'est pas n'importe qui, là. Imagine ton pasteur, c'est Jésus. C'est pas un fou comme moi, là. C'est Jésus. Ça va? Si tu as une juste interprétation des Écritures, là, tu l'as avec lui tout le temps. Eh bien, après 3 ans et demi, ils ont marché avec lui, ils ont vécu avec lui, ils ont vu toutes ses réactions, ils ont vu les miracles. Même le Seigneur leur donnait le pouvoir d'en faire, de chasser des démons. Les gars revenaient, ils n'en revenaient pas, ils racontaient finalement leurs exploits. « Hey, j'en ai chassé 10 la semaine passée. C'était trop beau à voir. Tu » sais. Puis le Seigneur disait « Non, c'est bien là, mais c'est rien. Réjouissez-vous plutôt que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. » Moi, je vous rachète, les gars. Mais les autres, ils continuent. Mais c'était quoi leur grande conversation adamique? Qui est le plus grand? C'est qui le plus important? C'est qui va être en haut de la pyramide, qui va être le boss? Puis Jésus, régulièrement, il arrêtait, il se retournait. Parliez de quoi? Et Jésus faisait exprès de stimuler, de montrer leur côté adamique. Les gars, vous allez apprendre à vous en débarrasser continuellement. Faites attention, ce n'est pas parce que vous allez naître de nouveau que vous n'aurez plus votre vieille nature. Vous allez devoir vous en méfier continuellement. Moins tu as nourri, moins avoir d'effet. Plus tu vas te nourrir ton homme nouveau, plus il va avoir de l'effet. Donc, et au scandale des disciples, le dernier vrai repas de la Pâque. Le dernier repas type. Jésus l'a fait avec ses disciples. J'ai vivement voulu manger ce dernier repas avec vous. Parce que ça, c'est le repas qui disait, regardez les gars, ce qu'on mange là, qui symbolisait la délivrance à partir de l'Égypte, qui était un type encore, bien, c'est moi qui s'en viens maintenant être l'agneau qui va verser son sang pour vous sortir du pharaon de ce monde qui s'appelle Satan. Le monde est entièrement sous son pouvoir. Mais vous allez me suivre. Mais pour que ça arrive, ce n'est pas plus d'éducation, ce n'est pas plus de miracles, je dois aller payer la dette. Et vous allez être mis dans ma mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et puisque vous allez être mis dans ma mort, vous allez être maintenant amené en nouveauté de vie. Et c'est pour ça qu'on est responsable maintenant d'explorer cette nouvelle sorte de vie pour développer des nouveaux réflexes. Si on n'obéit pas, même si ce n'est pas notre avantage. Moi, je pense entre autres aux femmes, vous avez finalement en ce moment une campagne claire, nette et précise de voir comment les hommes n'ont pas été à la hauteur, qu'ils vous ont dominé, qu'ils vous ont manqué de respect. Pas vrai? Il y a assez d'excuses pour dire « jamais, jamais m'en me soumettre ». Mais le problème, c'est que ce n'est pas à votre homme que vous devez vous soumettre et obéir. C'est à Christ. C'est à Jésus-Christ. Et n'ayez pas peur, parce que même Pierre rappelle l'exemple de Sarah, qui n'a pas eu peur d'appeler son mari « mon Seigneur ». Là, c'est un peu fort, là, tu vas dire, mais dans quel sens qu'elle n'a pas eu peur? Est-ce que vous réalisez que cette femme-là, elle est mariée à un homme qui reçoit un appel d'être le père d'une multitude? Puis le problème qu'elle a est stérile. Pensez pas qu'elle n'a pas peur de se faire rejeter, qu'elle a fait échouer l'appel de son mari. Quand le Seigneur annonce, parce qu'elle a trouvé une solution légale, « Tu vas coucher avec ma servante, c'est légal, elle va devenir une mère porteuse, en d'autres mots, et puis tu vas avoir ton fils par elle. » Ça a donné Ishmaël. Les autres étaient contents, tout problème est réglé. Le Seigneur va visiter Abraham avant que l'année finisse, tu auras ton fils. Lui, il n'est plus capable d'y croire. Là. Il dit la même chose quand les trois hommes viennent. L'Éternel est parmi les trois hommes. Ta femme, l'année prochaine, avant que l'année finisse, elle va avoir le fils. Elle-même est dans sa tente, puis elle rit. Ben oui. Elle rit, puis elle dit, y a-tu encore des désirs? Mais c'est intéressant, parce que ce n'est pas qu'Abraham était devenu un gars qui a besoin de petites pilules bleues, là. Non, 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 je vous le dis, parce que qu'est-ce que la Bible nous raconte après la mort de Sarah? Il s'est remarié avec Keturah et il a eu des enfants avec elle. Ça rend du vieux, là. Donc, quand cette petite phrase-là est intéressante, ce couple-là, ça ne devait plus être le gros amour passionnel. Tu sais, ça devait être des bons amis, là. Tu sais? Mais ça ne devait pas être, tu sais, attends, y a-t-il encore des désirs pour moi, lui, là? Elle se marie, puis c'est pour ça que l'homme va dire, « Tu ris, Sarah? » Aussi menteuse que son mari. « Non, non. » D'accord, on va l'appeler Isaac. On joue et c'est comique. Donc, ils ont connu Dieu, pas à cause que leur obéissance a fait qu'ils ont mérité, mais quand ils ont obéi, ils l'ont fait par la foi. Donc, on ne se sanctifie pas par la loi, on se sanctifie par la foi. C'est pour ça que toutes les épreuves qui nous arrivent, les défis qui vont nous arriver, vous avez le choix de continuer à les régler à la manière du vieil homme, avec toutes les raisons valables, ou bien de dire non, moi je veux connaître Dieu. Moi je veux connaître le Seigneur, parce que dans cette vie-là, il y a bien des choses qui ont l'air à marcher par tout seul. Mais ce n'est pas que ça marche. Le but de ma vie, là, en ce temps, ce n'est plus que ça marche ou que ça ne marche pas. Le but de ma vie, c'est de connaître le Seigneur. Je suis en train d'accompagner une dame à Québec qui est en train de mourir. Et puis, sa fille m'a appelé, c'est chez Diane, c'est là qu'on avait commencé l'étude biblique il y a bien des années, des années 80 à Québec. Et puis, ça vous, les gens avant de mourir, là, quand ils savent, sont assis, est assez lucide. Là, ça va de moins en moins bien, là, mais c'est courant. Devinez avant de mourir, à quoi vous pensez? Bien, ça vous, la grande question, c'est est-ce que je suis digne de rencontrer le Seigneur? Tu sais, c'est facile de parler de la mort quand on est plein de vie, pas vrai? Tu sais, là, si on est en santé, on peut dire, ah, il n'y a pas de problème quand le Seigneur va me chercher, ça va être une belle journée. Ça, là, c'est parler comme après, tu sais, tu as mangé un gros pas. Tu sais, des fois, on a tellement trop mangé que ça fait mal au ventre. Puis là, on rêve tous de faire un jeûne après. Mais c'est drôle, hein? Si vous invitez quelqu'un avant le souper à faire un jeûne, on dirait qu'il est moins motivé. Quand tu as faim, c'est pas pareil. Quand tu commences à dire, hey, là, la seule connaissance de l'existence que j'ai, elle se termine. Et là, je m'en vais où? Ça peut faire peur. Ça m'est arrivé à suivre, entre autres, une autre personne qui, on faisait un relais dans sa chambre à l'hôpital, C'était Micheline à l'époque. Et puis, moi, j'allais avec son beau-frère de l'époque, hein, M. Bourassa. On allait passer la nuit. Tu sais, dormir dans une chaise à côté. Là, puis la nuit, c'est pas évident pour les gens qui s'en vont dans l'éternité. Le jour, ça nous donne l'impression que c'est la vie. La nuit, c'est sombre. Toute l'activité arrête. Là, toute ta vie, est-ce que je suis assez digne? J'ai-tu assez fait? Qu'est-ce qui tient? Et c'est là qu'il faut se rappeler. On est sauvé, pas par nos œuvres. On est sauvé parce qu'on y a fait confiance. Mais la confiance, quelquefois, est mise à l'épreuve solide. Surtout quand tu ne contrôles plus la situation. Quand tu n'as plus de contrôle sur la situation, de faire confiance au Seigneur, là, c'est une vraie foi. Là. Mais tant que tu as d'autres moyens, ben, tu dis, je fais confiance au Seigneur, mais si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, j'ai d'autres moyens. Abraham, quand il a fait confiance au Seigneur, qui est en réalité, peut-être un acte de foi simple, il a été couché avec sa femme. Bon, ce n'est pas un grosse œuvre, là, mais tu sais, sa femme a dit, OK, on va évangéliser à soir. Eh bien, finalement, il n'a pas considéré son corps comme mort. Puis pas juste son corps. Moi, j'ai l'impression que leur désir l'un à l'autre, il y avait tellement eu de déception qu'une relation, si tu ne fais pas attention, ça peut s'éteindre. Hein? Mais ça n'enlève pas que tu es marié. Il y a un contrat, une alliance qui a été faite. Et le Seigneur tient énormément à ce qu'on respecte nos alliances. Parce que si vous ne respectez pas vos alliances, pourquoi vous allez croire que Dieu va respecter la sienne envers vous? Donc, c'est pour ça que le lieu où on va commencer à vraiment connaître le Seigneur de manière très concrète, ça ne sera pas ailleurs, ça va être dans notre vraie vie, la vie de famille. Femme, mari. Mari, aimez vos femmes. Donc, en d'autres mots, si la femme doit apprendre finalement à aider son mari à atteindre son but, le mari, il faut qu'il donne une stimulation aussi à sa femme pour qu'elle veuille. Quand une femme aime son mari, ou même quand on aime finalement l'équipe dans laquelle on est, on veut qu'elle gagne. Puis il dit, fais attention, cherche la part dans ses erreurs sans arrêt. Tu sais, les mauvais chefs, là, c'est ceux qui trouvent toujours en erreur. C'est pas correct, c'est pas correct, c'est pas correct. Non, écoute, montre-moi ce qui était correct au moins. Là. Après ça, il dit, enfants, nos enfants, on veut tous les enseigner, hein, la parole de Dieu. On veut que nos enfants connaissent le Seigneur. Mais comment ils vont pouvoir connaître le Seigneur? Ils ont un acte de foi à faire. Obéis à tes parents. Parce que déjà dans leur petite vie, ils ont déjà leurs propres règles. Mais si les enfants, on leur apprend que de faire confiance à tes parents dans l'obéissance, et c'est pour ça que ceux qui auront été des mauvais parents, il y a un moyen jugement qui attend ces gens-là. Parce que là, le fort est toujours pour le faible. Toutes les alliances, vous allez voir dans la Bible, c'est toujours une alliance que le fort va s'occuper du faible. Alors finalement, le Seigneur dit, si quelqu'un est une pierre d'achoppement pour un enfant, vaut mieux qu'il s'attache une meule, tu sais, une pierre de meule, là, puis qu'il jette dans la mer. Parce que tu as brisé sa capacité. Si tes parents ne sont pas dignes de ta confiance, pourquoi les autorités plus tard dans la société, partout où est-ce que tu vas vivre, pourquoi tu vas faire confiance aux autorités, les premières personnes qui incarnent cette réalité d'autorité, c'est tes parents. Il y a des gens qui restent des petits rebelles chroniques sans arrêt. Parce que ça a été brisé. Puis les autres, ils pensent qu'ils sont forts. On est même dans une culture qui loue et louange les rebelles, comme s'ils étaient plus intelligents. Combien de fois dans les films qu'on regarde, les autorités sont toujours les losers et puis le rebelle, c'est le héros? Hein? Bien, ce n'est pas selon la parole, disons. Ça commence où? Ça commence dans la famille. La famille est vraiment le lieu de formation de disciples par excellence. Parce que si tu dis aux enfants, regardez, vous devez apprendre à nous obéir. Nous, on va faire attention pour ne pas vous décourager. Parce que si tes exigences sont trop demandantes aux enfants, tu vas les décourager parce que tu les mets toujours en échec. Donc, c'est un milieu pour dire à l'enfant, regarde, apprends à nous obéir en passant, sais-tu, Dieu dit que quand tu nous obéis, Dieu dit c'est agréable pour lui. Il est content. Il voit quand tu obéis. Même plus que ça, C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu vives de nombreux jours dans le pays que l'Éternel va te donner. Donc, ça compte. Et pour l'enfant, vous ne voulez pas juste y donner de l'information biblique. Tu sais, j'entends souvent les parents dire « je veux apprendre à faire un culte avec mes enfants le matin », et tout ça, tu sais. Bien, moi, être honnête avec vous autres, moi, en tant que pasteur, tout le monde doit s'imaginer que j'ai mis ma petite fille à mémoriser la Bible au complet, à faire des push-ups en priant. Eh bien, non. Non, parce que le déjeuner, le dîner puis le souper, c'était normal, on parlait du Seigneur tout le temps. Mais dans la vraie vie, comment mieux le connaître? Et puis, j'ai appris aussi qu'elle développe une amitié avec le Seigneur. Et en passant, les enfants ont cette capacité-là en partant. Parce que dès que le petit poussin qui est là, va commencer finalement à devenir plus conscient, eh bien, vous allez voir, les enfants ont une capacité incroyable d'avoir des amis imaginaires. Leurs toutous, ils vont leur parler. Ils pensent au monde des licornes. Donc, tu dis, puis Dieu, dans sa bonté, dans son humilité, ça ne dérange pas de venir entre le toutou et la petite licorne. Et tu dis à ton enfant, regarde, il faut que tu apprennes à connaître le Seigneur. En passant, il nous aime. Il nous aime et puis il aimerait ça s'occuper de toi. Il veut être ton Dieu. Ah oui? Oui, oui, il veut. Regarde, il nous a donné nous pour s'occuper de toi. Mais il va se garder une petite place à lui aussi. Ah oui, comment? Ben, regarde, si tu as besoin de quelque chose, apprends à y demander puis garde ça secret. Dis-le pas à personne, c'est juste entre toi et Jésus. Et tu vas voir qu'est-ce qu'il va faire. Et c'est comme ça que j'ai élevé ma fille. Demande les choses au Seigneur. Et puis, c'est arrivé à quelques reprises que le Seigneur a fait des relations concrètes avec toi. Après que la relation est établie, que Dieu existe pour vrai, parce qu'ils l'ont expérimenté, là, quand tu leur donnes la Bible en disant, « Regarde, ça, c'est la parole du Dieu que tu connais. » Et non pas juste une philosophie de vie ou une religion. Non, non, une vraie relation avec Dieu. On veut parler de lui comme des témoins. Les gens du monde là, sont tannés d'entendre des histoires. Puis ils ont peur des gens qui sont intellectuellement bien habiles pour être capables de te vendre un frigidaire. Ils veulent des témoins. Dis-moi, ça a fait quoi ça dans ta vie? J'aimerais donc ça que ça soit vrai ce que tu me dis. Bien, si on n'a pas des témoins, puis un témoin il dit la vérité même souvent à son détriment. Un manipulateur, il va dire des faits à son avantage. Il ne faut pas que l'Église devienne manipulatrice. Il faut continuer à dire la vérité tout le temps, même si ce n'est pas notre avantage. Mais en même temps, ceux qui ont pris le temps de connaître le Seigneur, ils vont en voir le comportement, parce qu'oubliez pas, il dit, l'homme nouveau se renouvelle dans l'image de celui qui l'a créé. Si on veut atteindre la maturité, c'est juste dans le connaître. Et le connaître, ça va se passer juste quand je vais avoir une épreuve. Et puis là, je dis, OK, qu'est-ce que tu dis dans ta parole par rapport à l'épreuve? Comment je compte sur toi là-dessus? Là? Et c'est pour ça que si on n'étudie pas sa parole, si on fait pas, on ne l'a pas en abondance au milieu de nous, c'est que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, eh bien, finalement, on va vivre selon toutes sortes de stéréotypes. En passant, il n'y a rien de pire que les stéréotypes du monde ou les stéréotypes religieux. C'est selon sa parole qu'on doit apprendre à vivre. Et là, après ça, on va réaliser d'un fois que pendant un bout de temps, on avait interprété de certaines manières sa parole, on s'aperçoit, oh non, c'est pas ça qu'il voulait dire. Mais puisqu'on croit dans une personne, pas dans un ordinateur. Tu sais, un ordinateur, c'est un peu frustrant hein, quand tu n'as pas le bon point à la bonne place, qui te demande ton code. Écoute, il y en a tellement de codes, moi, j'ai plus de place. Je veux dire à la région, j'ai oublié le code qu'on avait. Je t'ai réinventé un autre. Mais au moins, quand tu parles avec une personne, bien là, on peut se comprendre, même si tu perds le code. Dieu, c'est une personne ressuscitée, vivante au milieu de nous. Donc, il dit, non, regarde, tu fais d'abord confiance à une personne et je vais t'instruire jour après jour, toujours un peu plus. Et c'est comme ça qu'on précise mieux en vivant avec le Seigneur. Ça n'arrivera pas du jour au lendemain. C'est pour ça que Paul va dire, « Mets pas comme ancien un nouveau croyant. » En d'autres mots, le mot dit, « ancien, est vécu. » Et Timothée continue à faire des progrès. Donc, on voit que la vie chrétienne, c'est du progrès. Mais où, encore une fois, que je pratique tout ça? Ce n'est pas en quittant ma famille, en quittant ma job, en allant au monastère. Non, c'est en restant chez nous, en lisant sa parole, et en lui demandant tous les jours. Tu dis, Seigneur, qu'on peut te demander notre pain quotidien. Oui, le pain physique, merci, mais j'ai besoin du pain qui est Christ, sa parole, afin que je puisse mieux te connaître, que je sois plus utile entre tes mains après. Et surtout, Seigneur, je veux devenir quelqu'un de crédible. Parce que c'est ça qu'on cherche dans la vie. Moi, au début de ma conversion, là, j'observais bien plus les gens dans l'église où j'allais là, au début que d'écouter. J'entendais tellement d'informations qu'à un moment donné, il n'y a plus de place. Mais c'était toujours fascinant de voir quand il y avait une crise, il y avait un problème. Moi, je checkais les anciens. J'avais le goût de voir, j'avais hâte de voir ce qui était pour arriver. Puis des fois, des choses plates. Et à un moment donné, un monsieur qui était venu dans l'église puis il faisait la folie furieuse. Et puis, le pauvre gars, il était malade profondément. Il était en schizophrène profond. Il était monté même chez M. Howard, tout nu. La police est arrivée. Et moi, je regardais, pas le gars tout nu, remarque, mais je regardais M. Howard en disant, « Hey, ça va être intéressant de voir comment ça va se régler, tout ça. » Incroyable de voir comment M. Howard a pu régler la situation avec les policiers, tout ça. Et puis, il dit, « Mais qu'est-ce que tu fais là? » Non, non. La parole dit finalement qu'on est nu devant lui. Oui, mais c'est parce que tu n'es pas devant lui, tu es devant moi. Là, Et puis, mais le pauvre gars, il était tellement littéral dans son interprétation de la Bible qu'à un moment donné, il avait mangé sa Bible, feuille par feuille. On mange la parole de Dieu. Ah oui, il l'a mangé. Mais moi, c'est intéressant de voir est-ce qu'ils vont le mettre dehors ou comment ils vont manifester la compassion de Dieu à cette personne-là qui est en train de perdre la raison. Fait que j'ai plus appris en regardant, et surtout dans les épreuves, parce que quand tout va bien, c'est facile de péter ses bretelles. C'est quand tout va mal qu'on va voir, OK, le câble, il est supposé être résistant à telle pression. On va voir si c'est vrai. C'est plus facile de parler de notre vie chrétienne que de la vivre. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'informations. Là, on ne peut plus dire comme dans les années 50 ou, je ne sais pas, au 17e siècle, on n'a pas accès à l'information biblique. Aujourd'hui, c'est plein, ça en est trop même. Le problème, c'est, on a-tu trouvé des témoins? As-tu quelqu'un qui laisse les gens l'approcher pour voir comment ils vivent, eux autres? Chez eux, avec sa femme, ses enfants, quand ils travaillent. Es-tu prêt à aller voir ses patrons, voir quel genre de gars il était, lui, au travail? Ou en voyage, ça, c'est toujours fascinant, en voyage, parce que le câble est faible. Surtout dans un pays que tu ne connais pas, il fait chaud. Parce que quand on s'en va en Haïti, on part au mois de janvier, souvent à quasiment moins 30 des fois, tu sais. Et on débarque de l'avion à du plus 30. Ça met le système un peu en état de choc. Et après ça, des fois, les gens ont faim. Ils sont fatigués. Et là, c'est intéressant, tu vois la force du câble. Parce que c'est facile de dire que tu es un bon chrétien quand tout va bien. Mais quand les choses sont plus difficiles, tu as moins de contrôle, c'est là qu'on va voir la mesure de ta foi en Dieu. Parce qu'on a bien plus confiance en nous autres quand on contrôle la situation qu'on a confiance en Dieu. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais j'ai déjà demandé au Seigneur, « Regarde, Seigneur, ferais-tu pourvoir mes besoins? » Tu sais, des fois, on peut être short hein, financièrement. Puis surtout quand tu commences le ministère, puis l'Église nous faisait un don de 30$ par semaine. Fais la vie avec ça, tu sais. C'est là que j'ai appris à aller faire des commissions puis trouver des spéciaux. On a mangé beaucoup de poulet. Mais souvent, je dis au Seigneur, « Regarde, Seigneur, j'aurais pas besoin de te fatiguer à toujours, parce que c'est encore moi. Donne-moi 1 000 000 que je vais mettre dans le compte de banque. Regarde, ça va être réglé. » Eh bien, il ne l'a pas fait. Mais au contraire, il m'a dit, « Tu manquais de quelque chose à date? » Non, mais on dirait que j'ai toujours la face dans le saran wrap, tu sais. T'sais, on dirait que je n'ai jamais de lousse en avant de moi. Tu n'as pas besoin de lousse, je suis là. Moi, je sais, mais ça me stresse un peu. Tu ne me fais pas confiance? Je ne veux pas dire ça, même si ça veut dire ça. Mais je te demande pardon. Mais je vous le dis, hein, Carole, on n'a jamais manqué de rien. Jamais. Même quand on était en Israël, puis on avait, tu sais, un jour, on n'avait plus d'argent. Plus une scène. Puis là, je leur dis, on va voir si ça marche comme dans les livres, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'on va se passer, on n'a plus de nourriture. Fait que Naomi me regarde, tu sais. On va demander au Seigneur, on va voir, tu sais. Mais moi, dans ma tête, je me disais, bon, c'est pas grave, on peut passer une journée ou deux sans manger, tu ne meurs pas, c'est pas grave, tu sais. C'est désagréable, mais c'est pas grave. Et puis, c'est quoi? Dans l'après-midi, M. Racacho, avec qui on a fait des voyages, était en Israël avec un groupe de pasteurs.
Hey, Pasteur Dan, on sait, on a su que tu es là. Blablabla. Viens donc faire un tour à l'hôtel. Tu sais, les gars, on va se rencontrer. Ah, je serais si je viens avec ma femme puis ma fille. Oui, oui, oui. OK. C'est pourquoi? Pour le souper. OK. Ça fait exactement. Hey, de ce soir, le Seigneur nous paye le restaurant. On a marché parce qu'on n'avait pas d'argent. On a marché jusqu'à ce bord de la plage, à l'hôtel. Et puis là, on mange avec tout le monde. Puis en insécure, comme un écureuil, j'ai pogné des petits morceaux de pain. Et un pasteur est venu me voir. Et écoute, le Seigneur m'a vraiment à cœur de te donner ça, une enveloppe, tu sais, avec de l'argent. Puis moi, je suis toujours nerveux quand ça. Non, non, c'est... Hey, prends-la. Le Seigneur m'a dit de te la donner. OK, OK, OK. Il y avait 100 piastres US dedans. Mais toutes ces petites choses-là, le Seigneur fait un contact avec toi, il t'apprivoise. Fait quand ça va être la fin de notre existence, est-ce qu'à l'hôpital, on aimerait ça être encore des témoins de la grâce de Dieu? Pas juste raconter une religion, raconter des histoires de quelqu'un avec qui on a connu. Pas juste de la théorie. C'est pour ça qu'entre nous, là, je vous demanderais, là, on va commencer à se revoir, là, on va commencer à se reparler pour vrai. Là. Racontez-vous des histoires que vous vivez avec Dieu. Parlez de sa bonté à votre égard. C'est ça le louer. Le louer, ce n'est pas juste chanter. Le louer, ça veut dire parler hautement de quelqu'un. Parlez-nous de ce que vous vivez avec le Seigneur. Pas les grandes œuvres que vous faites pour le Seigneur. Ça me tape ses nerfs. Parlez-nous plutôt de ce que le Seigneur fait pour vous. Vous avez un problème, comment il l'a réglé? Afin que ça édifie l'Église. Il est vraiment au milieu de nous autres, Jésus. C'est le vrai berger de l'Assemblée. On s'engage à faire ça? Hein? On va être béni, hein? On remet ça au Seigneur? Fait que Seigneur, d'abord, on te remercie que ça fait du bien de parler à du monde plutôt qu'à un écran. Et Seigneur, surtout que dans cette communion fraternelle qui était un des quatre piliers de notre vie chrétienne, la communion fraternelle, c'est le lieu où ta parole, Seigneur Jésus, va habiter au milieu de nous abondamment. D'abord par les chants, les psaumes, les hymnes, ça c'est vrai, mais aussi, Seigneur Dieu, qu'on puisse raconter ta bonté à notre égard. On puisse se raconter plein d'histoires de ce qu'on vit avec toi, Seigneur Dieu, parce qu'on a osé te faire confiance. Je sais que le mot « oser », c'est peut-être un peu fort, parce que tu es digne de toute confiance, mais c'est plate qu'on soit obligé de se forcer dans l'épreuve à te faire confiance. Mais c'est comme ça qu'on se dépouille du vieil homme qui a appris à vivre dans un monde sans Dieu, sans Christ, sans promesse, pour maintenant découvrir qu'en Jésus-Christ, tu nous as sauvés, tu t'es réconcilié à nous, tu es devenu notre Dieu et tu t'occupes de nous. Fait que s'il vous plaît, Seigneur Dieu, qu'on soit une église qui retrouve la louange, la vraie louange, te louer, Seigneur Dieu, parler de toi pour vrai, comme des témoins. Et quand on va s'approcher de ta parole après de la Bible, on s'approche de la parole de quelqu'un qui nous aime et qu'on connaît. Fait que s'il vous plaît, Seigneur Dieu, renouvelle-nous afin qu'on ne tombe pas dans des excès, soit du mysticisme, soit des œuvres humanitaires à l'excès. Non, qu'on soit simplement des gens qui te connaissent et qui découvrent ta volonté et qu'on y marche. Et en y marchant dans tes projets à toi, on puisse te connaître encore davantage. Les gens de ce monde ont besoin de témoins. Fait que merci d'avance, Père, au nom de Jésus. Amen.